Bonjour à tous.
Dans l'actualité de ce dimanche, 14 médecins de renom réclament le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés face au relâchement des gestes barrières alors que le Covid-19 semble reprendre des forces. Dans l'actualité également, Laurence.
Le succès du vélo depuis le confinement et le déconfinement, il fait le bonheur des voleurs également. Reportage de Thibault Lefebvre dans quelques instants. Nous irons en Russie où la taïga de Sibérie, la proie des flammes, comme chaque été désormais, et puis la joie des amateurs de football avec le retour du public dans les stades, à Caen notamment hier soir.
Notre premier invité de cette matinale est un auteur de livres jeunesse, Timothée de Fombelle. Son roman Alma sur le commerce des esclaves est un succès déjà en France, mais son éditeur américain refuse de le sortir aux États-Unis. Il nous dira pourquoi à 7h50. Et puis à 8h20, on embarque dans un autre navire, Tara, qui observe les océans et les fleuves face à la pollution. Le capitaine Martin Herto et Romy Antinger de l'équipage font escale dans notre studio.
France Inter.
Et si on imposait le port du masque dans tous les lieux publics fermés? Dans une tribune publiée ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, 14 médecins, parmi lesquels l'infectiologue Karine Lacombe ou le généticien Axel Kahn, expliquent que les indicateurs sont certes encore au vert pour la plupart, mais ils redoutent une accélération des contaminations. Le professeur Antoine Pellissolo de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, il répond à Daniel Messager.
L'objectif essentiel, c'est de rappeler la nécessité de porter le masque dans toutes les situations de proximité sociale et notamment dans les lieux clos où on sait que le virus a beaucoup plus de risques de circuler d'une personne à l'autre. Et aujourd'hui, ce port est recommandé, par exemple, dans les magasins, dans les grandes surfaces, dans les lieux publics de ce type-là, mais ce n'est pas une obligation. Et nous, on ne demande pas forcément une obligation légale, mais que chacun prenne conscience de la nécessité de le faire. On a bien vu qu'au fur et à mesure, on avait tendance à prendre des libertés et malheureusement de moins en moins de personnes portent le masque dans ces situations. C'est vraiment de plus en plus net hein, au fur et à mesure des jours, notamment maintenant les lieux de vacances. Malheureusement, c'est prendre le risque majeur de voir à nouveau une épidémie se développer et donc des mesures beaucoup plus fortes de restrictions qui pourraient en découler.
Et puis ajoutons qu'en Mayenne, où 7 foyers de Covid-19 sont en cours d'investigation, un dépistage massif va démarrer lundi. Les foyers sont disséminés dans 3 communes, dont principalement Laval. Le Premier ministre Jean Castex est lui attendu en Guyane, ce territoire français d'Amérique du Sud particulièrement touché par l'épidémie. Un aller-retour de moins de 24 heures, centré essentiellement sur les questions sanitaires. Il sera accompagné par le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, le ministre de la Santé Olivier Véran. Le Premier ministre doit se rendre notamment à Cayenne, au centre interministériel de crise qui vient d'ouvrir. Et puis aux États-Unis, tout arrive. Donald Trump a été vu pour la première fois hier avec un masque. Le président américain, il faut dire, était sous pression depuis des semaines pour donner l'exemple face à l'explosion de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis. 66 528 nouveaux cas en 24 heures. C'est un nouveau record dans ce pays.
La suite du journal chez Ubisoft, le géant français de jeux vidéo, les têtes tombent.
Ubisoft, c'est Assassin's Creed, Rayman, le numéro 2 de l'entreprise, Serge Ascouet, a choisi de démissionner. Excite également la DRH ainsi que le patron d'Ubisoft Canada. Ils sont au cœur d'un scandale d'agression et de harcèlement moral et sexuel. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, affirme qu'il supervisera lui-même la refonte complète des équipes. L'entreprise Ubisoft compte 18 000 salariés dans le monde, dont 22% de femmes. Le taux de réussite avait déjà atteint des sommets avant le rattrapage, 91,5% des candidats avaient obtenu le précieux diplôme du premier coup du baccalauréat au contrôle continu. Eh bien, la pandémie a eu raison des examens. Ce taux de réussite grimpe à 95,7% après le rattrapage pour les candidats qui avaient entre 8 et 10 de moyenne générale. Alors, comment l'enseignement supérieur va-t-il absorber cet afflux massif de bacheliers? Ça représente tout de même dans l'absolu près de 200 000 étudiants supplémentaires à la rentrée prochaine. On en reparle dans le journal de 7h30. Le vélo, depuis la crise du Covid, connaît un succès sans précédent chez les Français, désireux souvent d'éviter les transports en commun. Mais le revers de ce succès, c'est désormais, en fait désormais de ce vélo, un objet de convoitise pour les voleurs, les revendeurs. Ça se passe à Paris sur une petite place, boulevard de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de la capitale. Des receleurs qui ont pignon sur rue à côté des revendeurs de cigarettes et qui revendent ces vélos pour quelques dizaines d'euros. Thibault Lefebvre.
Depuis la fin du confinement, Julien roule avec un vélo tout neuf.
C'est un VTC en fait qui fait à la fois et de la route et du tout terrain. Je l'ai payé quand même 490 euros, faut les sortir quoi.
490 euros donc pour son troisième vélo en moins de 5 ans, les deux premiers ont été volés.
Là récemment, un vieux vélo et un VTT il y a 3-4 ans. Première fois à Montmartre, deuxième fois dans le 11e. C'est un business, effectivement.
Un business qui se concentre donc au nord de Paris, autour d'une petite place arborée, à côté du boulevard de la Chapelle, surplombée par le métro aérien. Une vingtaine de vélos sont accrochés au mobilier urbain et des revendeurs guettent, sans stress apparent, des clients sous le regard indifférent des commerçants. Ahmed travaille depuis plus de 20 ans dans une épicerie juste à côté du lieu de vente.
Ça, c'est un commerce de vélos. Nous, on dit, c'est un commerce, qu'est-ce qui tombe de le camion? La plupart qui ramènent des vélos, c'est des toxicos.
Des toxicomanes.
Toxicomanes. Il vient avec, il te regarde, et alors je te reviens, dis-moi le prix, je te donne 40 euros, l'autre monsieur, il le laisse ici. L'acheteur, après, il vient, il part. Parce que la plupart qui achètent les vélos, c'est pas pour ici, pour envoyer au bled.
Depuis plusieurs mois, la place est surveillée par une caméra de vidéosurveillance. Les échanges sont désormais moins nombreux. Et une partie du commerce s'est déplacée à Aubervilliers, au nord de Paris.
Thibault Lefebvre. En Sibérie, Laurence Thomas, le retour tristement banal des incendies.
Oui, l'équivalent du Grand-Duché du Luxembourg a déjà brûlé. Le réchauffement climatique explique en partie la hausse constante des superficies brûlées chaque année, des incendies qui prolifèrent dans des espaces naturels fragiles, composés de pins, d'épicéas, de bouleaux, qui peuvent mettre un siècle à se régénérer à ces latitudes. Correspondance de Léo Vidal-Giraud depuis Moscou.
Le plus terrifiant, dans le fait que d'après les statistiques de l'agence russe des forêts, plus de 330 000 hectares de taïga sibérienne soient en ce moment en flammes, ce n'est sans doute pas l'ampleur de la catastrophe, mais c'est le fait que cette semaine soit une bonne semaine. Il arrive bien souvent que le bilan soit pire. Tous les étés en Sibérie, la saison des feux carbonise des centaines de milliers d'hectares de forêt, le processus est en partie naturel, mais le réchauffement climatique l'amplifie de façon dramatique. Comme nous l'explique Anton Beneslavski de Greenpeace Russia.
Les incendies deviennent plus violents et plus fréquents. Et les écosystèmes changent. Les espèces végétales n'arrivent pas à se régénérer. Elles disparaissent. Les feux sont plus fréquents et les arbres deviennent des buissons. Les buissons deviennent des steppes et les steppes deviennent des déserts.
Pour la Russie, la catastrophe n'est pas seulement écologique, elle est aussi économique, car les régions touchées vivent largement de l'exploitation forestière. Et puis enfin, c'est une catastrophe culturelle, puisque de nombreux peuples autochtones de Sibérie ont leur mode de vie et leur religion basés sur ces forêts. Et quand celles-ci brûlent, c'est leur culture qui part en fumée. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
La Pologne vote ce dimanche dans une élection présidentielle sur le fil du rasoir entre un président populiste sortant et un libéral europhile qui veut rétablir les liens avec Bruxelles. Le résultat de ce second tour de la présidentielle sera décisif pour l'avenir du gouvernement du parti conservateur et nationaliste. Ses détracteurs l'accusent de faire reculer les libertés démocratiques acquises il y a 30 ans lors de la chute du communisme.
Quand le football se déconfine, il y a du public dans les stades. Cela faisait 4 mois que ce n'était pas arrivé.
Hier, on a joué à Caen par exemple, le stade Malherbe. S'est incliné devant chez lui devant le Paris FC 1-0 sous les yeux d'amateurs de foot masqués et à distance les uns des autres dans les tribunes. Évidemment, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Léa Dubost, vous étiez près de ceux qui ont eu la chance de retrouver les gradins.
Environ 150 supporters ont eu la chance d'obtenir un billet pour la rencontre. C'est le cas d'Henri et Annick, des habitués. Ils ne voulaient surtout pas manquer cette première.
On est content de retrouver nos joueurs, hein, parce que ça manquait quand même. Hein. Depuis le mois de février, fin février, le dernier match.
J'ai fait la queue l'autre fois, 1h30. 8h30, je suis arrivé pour une place, fallait vous voir.
Ça me plaît, moi, je revis là. C'est très très différent de voir tout le monde avec ce masque. Mais ça n'enlève pas l'ambiance, même dans les tribunes.
Maillot de foot sur le dos, mais masque sur le nez. Thibaut retrouve lui aussi ses habitudes au bord du terrain.
On est abonné toute l'année, donc c'est tous les 15 jours. En tout cas à domicile et parfois quelques déplacements. Ça rythme un peu aussi la vie. Ouais. Donc ça fait du bien de se retrouver en fait, de retrouver les copains et l'ambiance du stade.
Et c'est principalement pour l'ambiance que les supporters sont venus, pas spécialement pour la qualité du match. Le tout premier depuis 4 mois, Fabrice Clément, président du stade Malherbe.
C'est anecdotique qu'on soit les premiers en France, mais on y était en manque. Ça fait longtemps qu'on attendait de revoir un match de foot dans les conditions particulières, c'est vrai. Mais voilà, on a bon espoir que ça redémarre et qu'on va redémarrer une nouvelle saison pleine et entière.
Pour ce premier match très particulier, le public n'a malheureusement pas assisté à une victoire. Les Normands se sont inclinés 1-0 face aux Parisiens.
Léa Dubost, et puis ce soir à 19h, c'est le PSG qui retrouvera le terrain à Mathieu Mécal face au Havre, devant seulement 5000 spectateurs. En ligne de mire pour le PSG, les deux finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, mais aussi la phase finale de la Ligue des Champions et le redémarrage du championnat.
C'est bien noté, c'était le journal de Laurence Thomas. Merci à vous Laurence.